Sarah Turcher, directrice de FRIART, Centre d'art contemporain de Fribourg, s'entretient avec Isabelle Arthuis et Erwan Maheo à propos de leur exposition commune intitulée « Mathématiques ».
Alors, bon, la première des questions, c'est vrai que cette exposition s'appelle « Mathématiques ». Et il est vrai que pour beaucoup de visiteurs ou de gens qui connaissent bien FRIART, ils ont été surpris par rapport à un titre tel que celui-là. Alors, c'est vrai que mathématiques comportent beaucoup plus de choses que ce qu'on pourrait attendre des mathématiques que nous connaissons. Un peu de sérieux.
Bah oui, mathématiques, c'est pas simplement une matière à l'école, quoi. C'est des ensembles de combinaisons, de relations possibles entre des choses, d'articulation de choses, d'addition, de soustraction, de toutes ces choses qui peuvent être appliquées à la fois à un espace, bon, c'est fait dans la géométrie, mais disons, qui peut être appliqué à la poésie d'une certaine manière, quoi. Une relation entre des gens entre eux, entre des œuvres entre elles, entre un espace et des œuvres, entre un lieu, l'espace, les gens, les œuvres. Enfin, tout ça, c'est créer des unités qui font qu'on peut jouer quasiment mathématiquement avec, quoi.
C'est peut-être aussi une manière de créer un ensemble pour donner peut-être une nouvelle... créer une sorte de réalité sensible.
Bah ouais, c'est ça, c'est les rapports entre les choses qui sont les mathématiques. En fait, ça ouvre un espace qui est un autre espace, qui pourrait être défini comme un espace abstrait, en fait. Mm-hmm. Et c'est une chose qui n'est pas de l'ordre du formel. Et les mathématiques, souvent, s'appliquent à mettre des formes, quoi, en fait, sur les choses, quoi. Enfin, moi, j'aime bien cette dimension mathématique qui est l'ouverture d'un autre champ que le champ du visible, hein, qui est un champ perceptif, hein, sensible, hein, et qui est, en fait, une autre dimension. C'est pour ça aussi qu'il y a une série qui s'appelle Metataphysica, qui, en grec, veut dire « après la physique », Metaphysica, qui est un peu, justement, une dimension au-delà du réel, hein, et qui vient justement de champs et de combinaisons mathématiques, soit entre la lumière et un paysage, soit entre la forme de ce que l'on voit et la forme de ce qui apparaît dans la mémoire, par exemple. Ça, c'est aussi, c'est cette dimension-là, ouais, dans les mathématiques également, quoi.
Il y a la dimension logique aussi, enfin une espèce de logique, comme tu dis, par rapport aux photos. Il y a aussi les choses qui sont définies par ce qu'elles sont et par leur contraire. Enfin, il y a une relation au positif en photo et au négatif, à l'endroit, à l'envers, à l'intérieur, à l'extérieur. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que ça crée des espèces de binômes, techniques ou poétiques, et avec lesquels on peut jouer, comme avec un boulier ou avec les...
Voilà.
À les assembler, à les triturer, à les
Le premier binôme de ces mathématiques, en tout cas, c'est Erwan Maheo et Isabelle Arthuis.
Ouais,
c'est d'abord cette position-là. Il y a deux ensembles.
Chaque ensemble, il y a plein de sous-ensembles. Et tout ça
se croise.
Ouais.
Se chevauche, s'additionne, se soustrait.
Ouais,
ça...
ouais.
Se multiplie. Se divise.
Mais mathématiques, c'est un terme assez générique pour parler plutôt des relations, d'un mix en musique. Tu pourrais parler d'un mix, de jouer avec des sons pour en créer d'autres. Et là, c'est un peu jouer avec un espace et avec des œuvres, et avec des œuvres telles qu'elles sont à un moment, pour les transformer, les mettre à côté d'autres, pour créer des changements logiques et poétiques, quoi.
Puis c'est vrai que on parlait tout à l'heure de Metataphysica, et il y a des filtres rouges et roses qui sont apposés sur les fenêtres. Et c'est vrai que ça donne une autre dimension aux photographies. Et ce rose, par exemple, on le retrouve aussi sur le carton d'invitation. Ce qui trouble également, parce qu'on voit ce titre mathématique avec ce carton qui est rose, pratiquement pétant. Et il y a cette espèce de flottement. C'est vrai qu'on ne sait plus trop où, effectivement, notre perception doit se situer. Je pense que vous aimez bien aussi travailler sur ces doutes, sur la manière peut-être d'apporter... certains éléments qui perturbent aussi d'une certaine manière, qui demandent aussi au spectateur de retravailler
de redéfinir aussi.
La couleur, en tout cas, ici, et l'intervention de la couleur, que ce soit sur le carton, que ce soit dans les salles, c'est aussi une façon d'aborder des phénomènes de peinture, presque. C'est-à-dire que les photos sont des photos noires et blancs sur lesquelles on ajoute un filtre. Et il y a quelque chose qui arrive, qui est un peu de l'expérience avec l'image. L'expérience de la lumière sur l'image, qui est quelque chose qui est très interne avec les préoccupations de la photographie, puisque la photographie ne se révèle que par la lumière. Et le fait de mettre de la couleur sur du noir et blanc, c'est aussi de transformer la lecture qu'on peut avoir d'une image noir et blanc. C'est-à-dire que d'un coup, elle prend une charge colorée, une matière de lumière également, quoi. Et du coup, je trouve qu'on est dans une expérience qui est proche de la peinture. Comme un univers sur une peinture colorée peut agir aussi sur nous. Enfin, moi, je pense là, par exemple, très précisément au bleu clin, qui sont vraiment des expériences métaphysiques avec la peinture. Et les photos noir et blanc de cette série métaphysique sont aussi des choses qui sont très proches du dessin, qui sont proches de la gravure, qui sont très graphiques. C'est plus des mémoires d'images que des images photographiques avec une profondeur de champ, avec une qualité photographique. On est plus dans la trace de l'image photographique plutôt que dans la photographie. Et le fait de rajouter cette lumière colorée par-dessus fait qu'on bascule dans un champ perspectif qui correspond à des recherches de la peinture depuis longtemps.
Alors, c'est vrai qu'il y a aussi tout un procédé qui est intéressant, parce que tes photographies, parfois on aurait l'impression que ce sont des dessins, de la gravure. Et comment tu arrives effectivement à donner cette qualité à tes photographies ?
Ben, je ne la décide pas, en fait. C'est des photos elles-mêmes qui viennent comme ça. En fait, la plupart de ces photos sont des photos vidéo, qui sont ensuite numérisées, que ensuite je refotographie, que je fais un petit tirage numérique, je refotographie au banc repro, je fais donc un négatif et ensuite j'agrandis l'image en fonction du format que je juge nécessaire par rapport à quelle image vraiment, quoi. Donc il y a tout un lavement comme ça, d'un procédé qui lave la photo, qui met des couches successives sur l'image, mais au final elle reste là, quoi. Elle reste quand même.
Comme
c'est une trace de quelque chose qui a été perçu à un moment donné. C'est pas une volonté de laver les images, c'est simplement que les procédés de photographie depuis le départ sont très aléatoires et très. Il y a plein de façons de photographier, quoi. Moi, je fais aussi des reproductions de cartes postales, de livres. Il y a dans cette série notamment des choses qui ont été reproduites dans des bouquins.
C'est vrai que c'était des manières de travailler qu'on retrouvait, par exemple, au début du siècle, avec les avant-gardes, que ce soit au Bauhaus, où on utilisait un petit peu tous les procédés pour découvrir, un petit peu aller plus à même et plus à fond de ce médium. Et c'est des choses qu'on a un peu perdues avec le numérique.
Oui, je crois que, en fait, c'est surtout l'attention qu'on porte aux images qui est importante. C'est pas la façon dont on les fabrique. Parce que la fabrication aujourd'hui des images, elle est dans une multiplicité énorme. Tout le monde sait faire de la photo. Je veux dire, c'est pas compliqué d'appuyer sur un bouton aujourd'hui pour faire une bonne photo. Mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait avec ces images, comment on les regarde et quelle attention on porte sur elles. Et le travail, en tout cas pour la photographie en ce qui me concerne, c'est plutôt de donner du temps à ce regard qu'on porte sur les choses, essayer d'articuler au moins une logique, une vision des choses. Moi, en fait, les photographies, j'en fais beaucoup, 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 et elles m'aident à regarder le monde. C'est-à-dire, ensuite, je passe beaucoup de temps chez moi à choisir les photos, à les regarder, à essayer de comprendre les mécanismes qui s'opèrent justement entre les choses, entre cette image-là et cette image-là. Donc ça, c'est aussi la partie, la grande partie de mon travail, quoi, en fait.
C'est-à-dire que dans la manière de travailler, ce processus de transformation qui est assez important. Et
oui,
il y a aussi de cette transformation qui opère après par association.
Par association, voilà. Quoi.
Et je trouve aussi intéressant par rapport à la collaboration qu'il y a pu y avoir, parce que c'est vrai que vous avez chacun votre vocabulaire qui est quand même très précis, qu'on reconnaît. Mais il y a une manière effectivement d'aborder certains sujets et qu'on retrouve chez Erwan Maheo. Alors, par exemple, il y a Fantasme, qui est une montagne, mais on pourrait très bien l'interpréter de manière très différente. Bon. Ça peut être une méduse, ça peut être.
Ça peut être. C'est une sculpture, c'est une peinture aussi. Je trouve que. Enfin, c'est. C'est à la fois un objet abstrait et un objet qui contient plein de choses d'une certaine manière. Quoi. Mmh. Et on en parlait avec Isabelle, qui aussi contient, et ça on l'a vu en montant les œuvres et en montant l'expo, c'est qu'elle contient beaucoup de ce qu'il y a dans la série de photos Metata Fusica, à savoir des rapports graphiques, des rapports de relief, des rapports d'espace, des rapports pareil d'intérieur et d'extérieur, de paysage, de plein de choses comme ça. Et c'est vrai que cette pièce-là, elle est suspendue dans l'espace et elle est aussi un peu suspendue entre différentes disciplines d'une certaine manière. Enfin, entre la peinture, entre la sculpture, l'architecture, parce qu'il s'agit aussi d'un espace construit. Entre la question du tableau, parce que c'est aussi finalement un format monochrome qui est pas vertical mais qui est horizontal et qui, par sa suspension, prend tout un relief spécial, mais finalement c'est quand même un rectangle de couleurs, quoi. Et qui devient, c'est presque comme si on décrochait un tableau du mur et qu'il tombait dans l'espace comme ça d'une certaine manière et qui devient presque une sculpture juste par ce mouvement-là. Et il a une relation aussi,
avec
le paysage, parce que le paysage, ça ressemble à un paysage, quoi. Et c'est peut-être un peu une porte d'entrée facile pour cette pièce-là, qui est cette notion du paysage. Mais c'est pas... ça correspond à ce que c'est l'image dans un tableau de la Renaissance, si tu veux. Et derrière cette image-là, il peut y avoir tout un ensemble à la fois de codes, mais bon, ici, il n'y a pas particulièrement de codes, mais un ensemble de niveaux de lecture différents qui donnent la profondeur à l'œuvre, quoi. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose qui est d'une simplicité presque déconcertante, mais qu'on peut lire de plein de manières différentes, qu'on peut appréhender de plein de manières différentes, et sur laquelle, à l'intérieur duquel, surtout, ça m'intéresse beaucoup, les gens, enfin le spectateur, peut se projeter un imaginaire lui-même, quoi. Et que c'est pas un imaginaire qui est imposé, c'est presque quelque chose qui est suspendu aussi entre une poétique que moi je peux amener, une chose que je propose, et la réception que va en avoir le public, quoi. Et je pense que chacun, selon son expérience de la vie et de X choses, a une approche particulière d'un travail comme ça, quoi. Parce qu'on peut dire, des gens peuvent y voir de la chair parce que c'est doublé de satin rose, on peut voir une espèce de peau, on peut voir une membrane, une housse pour une espèce d'objet qui n'existe pas.
Une gorgone.
Une gorgone, une méduse, enfin tout ce qu'on veut. Et finalement, c'est ça qui me plaît aussi, c'est que ça, par une espèce de principe d'abstraction, ça canalise et ça rajoute, ça aimante presque plein de notions, plein de... Oui, d'images, de notions, de projections. C'est beaucoup une histoire de projection aussi.
C'est vrai que ces projections, elles peuvent se faire de manière extérieure et de manière intérieure.
C'est vrai ça, que
ce satin rose est doublé à l'intérieur. Et le spectateur peut donc entrer dans cette montagne ou dans cette méduse pour expérimenter quelque chose d'autre.
Mais moi, j'ai toujours ce truc par rapport au paysage, c'est... On est en tant que spectateur d'un paysage, on est toujours à un point et on regarde vers un autre point, quoi. Et que ce soit en montagne, bon, ça ressemble aussi à la mer d'une certaine manière, ça me fait la même chose. J'ai toujours envie d'être, quand je suis à cet endroit-là, devant un paysage, j'ai envie de me projeter là où je vois, là où je regarde, quoi. Donc d'être à la fois devant une chose et à l'intérieur d'elle aussi, quoi. D'être, qui est cette espèce de va-et-vient. Et avec ce travail-là, je crois qu'il y a quelque chose comme ça où on se projette devant un paysage et en même temps, on peut avoir presque la jouissance de rentrer dedans, quoi. Enfin,
ça a à voir un peu avec l'horizon. Quand on regarde l'horizon, on a toujours envie presque de toucher cette ligne, hein. C'est quelque chose sur lequel on a envie d'aller vers, quoi. D'être le plus proche possible de cette ligne. Mais cette ligne, elle est abstraite, elle n'existe pas. Alors, plus on court après l'horizon et plus il s'éloigne de nous. C'est une image complètement... C'est la plus belle image de l'abstraction, oui. c'est l'horizon, par exemple. Et nous, on avait un ami pêcheur qui parlait de l'horizon et qui parlait d'abstraction. Et ça, c'était fantastique. On a eu un cours sur l'abstraction par un pêcheur qui, toute sa vie, a vu cette ligne autour de lui, comme ça. Et du coup, il avait une approche des choses qui était vraiment dans une perception très abstraite. Et voilà, ça, c'est aussi un exemple d'un terme des mathématiques pour revenir à des choses qui ont à voir avec l'abstraction, qui sont justement ces images projetées. Ces formes que l'on voit, mais qui n'existent pas. Et pour la série aussi, avec les photos du Brésil, c'est aussi quelque chose qui a à voir avec cette recherche de l'abstraction, des sources de l'abstraction. C'est-à-dire que la plupart des peintres qui, dans les années 40, se sont vraiment mis corps et âme dans une recherche de la peinture abstraite ou des formes de l'abstraction, quoi. C'est aussi des phénomènes qui sont dans le paysage, qui existent, qu'on voit qui se manifestent par des phénomènes de lumière, par des phénomènes chromatiques, par des phénomènes de brume, que d'un coup, par exemple, un brouillard arrive sur le paysage. Mais là, notamment à Fribourg, avec les montagnes et la brume, on a ces moments comme ça où notre perception du paysage et de l'espace est complètement métamorphosée parce qu'il y a un phénomène climatique qui arrive. Et du coup, on rentre dans une perception beaucoup plus abstraite, beaucoup plus métaphysique, en fait. Où d'un coup, tu te réveilles le matin et il n'y a plus de montagnes. Tu vis dans un autre temps, quoi. C'est comme les gens qui vivent tout en haut des montagnes et qu'il y a cette mer de nuages qui est là, quoi. Qui est comme une vraie mer dans laquelle on a presque envie de plonger, mais qui est une abstraction complète, quoi, puisqu'elle n'est pas palpable, quoi. Elle est pas, si on veut la toucher, on s'en éloignera toujours. C'est une vapeur, quoi, en fait.
Et justement, dans cette perception abstraite des choses, qui est très beau, on parlait d'horizon tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'il y a cet horizon qu'on peut voir dans le paysage, mais vous arrivez aussi très bien dans cette exposition à dévoiler un autre horizon. D'ailleurs, on l'a en rentrant à Friard, il y a cette immense affiche avec la grotte de Donan et qui donne une perspective qui est presque inversée, où l'intérieur devient extérieur, l'extérieur devient intérieur. Et c'est vrai que tout ça donne un travail qui est très sensuel en définitive. Il y a quelque chose, bon, on parlait de poésie aussi tout à l'heure.
Par rapport à la grotte, cette idée que Erwan développe ici, c'est la personne qui regarde, c'est-à-dire ce qu'on voit et là où on est. Mm-hmm. Voilà. C'est-à-dire que la grotte de Donan, elle nous met dans une caverne, de par son point de vue, quoi, en fait. Elle nous met sur une scène qui est cadrée par une grotte. Et il y a quelque chose aussi ici qui a, encore une fois, référence avec la peinture, parce qu'il y a un côté très Bruegel dans cette scène de genre, quoi, en fait. On a des gens, l'hiver, sur une plage qui font un feu. C'est comme les petits tableaux de Bruegel, où on a des scènes de village avec des gens en train de faire des repas ou... des retours de chasse, enfin, voilà, il y a une histoire, quoi. Mais il y a encore une fois là, cette position du regardeur, c'est-à-dire de là où on est quand on regarde, quoi, les choses. Et ici, dans l'exposition, il y a plein de points de vue qui sont comme ça, quoi. Il y a la montagne qui est un espace, il y a la série qui est avec la lumière rose, il y a la série des photos roses en lumière blanche, et puis il y a la salle du fond aussi, qui ouvre un autre espace encore, qui est un espace où les choses s'entremêlent beaucoup plus, et sont moins posées comme des choses en soi, mais dans une relation entre elles, quoi. Malgré que toutes les pièces de la salle du fond, que ce soit le patchwork, le poster, la table, le tableau, texte, et le coquillage, et le lit, chaque chose a sa propre autonomie, et en même temps se configure ensemble, quoi.
Et là, c'est très intéressant, parce que sur la table, il y a tout un texte de Bruno Di Rosa. Et c'est vrai qu'en définitive, vos œuvres fonctionnent aussi, comme je parlais tout à l'heure, de vocabulaire. Et c'est vrai que chaque mot a son entité et développe à sa façon un nouveau langage, associé à d'autres mots.
Ouais. Ouais. Bah oui, parce que en fait, Bruno Di Rosa avait déjà écrit un texte pour une exposition qu'il avait fait avant. Et là... il est pas, lui, c'est un écrivain, il n'est pas du tout ni critique d'art, ni théoricien ou quoi que ce soit. Et donc il est venu à l'atelier et il est reparti avec ce qu'on avait discuté ensemble à l'atelier. Donc il est reparti avec des notions, avec des mots, avec des images comme ça qu'on a pu lui donner. Et à partir de ça, il a écrit un texte qui est une œuvre à lui. Il le dit d'ailleurs qu'il a construit ce texte comme un peintre construirait un tableau ou un sculpteur, une sculpture. Et donc finalement, ce texte qui est dans l'expo n'est ni un texte didactique, explicatif de quoi que ce soit, mais c'est une œuvre en plus dans l'expo qui est basée sur les mêmes sur la même recette, plus ou moins, sur les mêmes mécanismes que le reste de l'exposition.
D'ailleurs, il termine son texte par « vie ».
Ouais, c'est une espèce de toute une description du monde qui
part du ciel par la vie, qui arrive sur la vie. qui est aussi, encore une fois, cette chose ascendante, quoi. Il y a quelque chose aussi qui descend, on descend du ciel et on va dans la terre, quoi. Il y a quelque chose comme ça aussi avec les photos, quoi. Entre des vues très lointaines de paysages, et puis d'un coup, pouf, des zooms sur des détails très précis. Et il y a des photos, par exemple, qui sont des vues du ciel, et des photos qui sont des grottes, des intérieurs de grottes. Donc là, on a aussi ce passage, comme ça, cette espèce de voyage du haut vers le bas, vers l'antre presque de la Terre, vers le centre, ouais. D'une certaine façon, un centre du monde, si on peut en mettre un quelque part, quoi, en fait.
Et c'est vrai que pour moi, quoi, c'est des... L'exposition que vous avez créée pour Friard, c'est des voyages. C'est vrai qu'on a parlé du Brésil, on a parlé, mais il y a toutes sortes de voyages.
Il y a le Brésil, il y a la Bretagne avec les photos aussi. Roses, puisque c'est que des photos de Bretagne avec des falaises, des grottes, des rochers, des ciels. Un peu de ciel de Suisse quand même, entre les deux.
Ouais, puis dans le voyage, il y a sûrement quelque chose à voir avec le voyage. Et je trouve que dans les voyages, il y a toujours des choses extérieures, quoi. Et je pense que le texte, par exemple, de Bruno Di Rosa, ou la méandrine qu'on a empruntée au musée de sciences naturelles de Berne, fait partie de cette idée-là, parce que, pas du tout dans le sens d'un souvenir, mais plutôt dans le sens d'une chose qui n'est pas construite par nous, qui n'est pas pensée par nous, mais qui est un élément extérieur qui vient finalement s'intégrer dans la logique de l'ensemble de l'exposition, et qui contient aussi en lui-même une espèce de structure fractale comme ça, comme l'exposition peut être aussi d'une certaine manière construite, quoi. Et j'aime bien ce rapport à des éléments extérieurs de temps en temps qui viennent dire autre chose ou dire d'une autre manière quelque chose une idée de l'ensemble de l'exposition, quoi.
Mais le terme du voyage, il n'est pas simplement lié avec un déplacement avec les pays, genre avec la Bretagne, le Brésil, la Suisse ou la Belgique. Et il est lié à une forme de déplacement. C'est plutôt la façon dont on se déplace dans les choses, quoi, ou ce qui nous déplace. Un voyage, c'est une mise en danger. C'est-à-dire, on n'a plus de repères, on n'est plus dans quelque chose qui a à voir avec notre culture, et on est vraiment dans une situation où on se met en danger, pas en péril, mais en danger nous-mêmes, quoi, de nos connaissances.
Parce que c'est aussi un voyage mental, hein.
Voilà, c'est ça, quoi. Et donc, c'est plutôt le voyage ici, il est plutôt dans le sens de ce déplacement, de cette mise en danger. Mm-hmm. De choses où on n'a pas forcément des repères, mais en même temps qui nous emmène sur quelque chose de glissant, quoi. Mm-hmm. Et là, le glissement, il se fait par la lumière, il se fait par la couleur, il se fait par la forme elle-même, puisqu'il y a des répétitions avec la forme entre la montagne et les photographies de rochers. Il y a quelque chose qui est très proche, comme ça, mm-hmm. mais en même temps, il y a un glissement, encore une fois, il y a un déplacement là. Et c'est un petit peu ça, je pense, le dénominatif de cette exposition. C'est une espèce de glissement sans arrêt, quoi, qui passe d'une chose à une autre chose. Un glissement dans les images, un glissement dans les idées, un glissement dans la lumière, un glissement dans le temps.
Ce glissement, justement, on parlait tout à l'heure de la méandrine, il faut dire que c'est un corail. C'est un corail qui est un peu la forme d'un cerveau.
Ouais. Mais justement, la méandrine, je voulais en parler là maintenant par rapport à toutes ces choses qui sont interpénétrantes les unes aux autres. La méandrine, elle agit d'une façon complètement différente puisqu'elle est vraiment en soi. C'est un objet qui est fabriqué par la nature elle-même et qui a cette complexité dans la forme où c'est comme un cerveau, c'est-à-dire où on va suivre le chemin du dessin qu'elle fait, quoi, par elle-même, quoi. C'est des entrelacs, quoi, en fait. Et ces entrelacs-là, ils sont liés les uns avec les autres. C'est très rhizomique. Et la méandrine, elle contient tout ça en elle-même. Elle n'est pas, elle agit pas ici comme quelque chose qui nous permet de glisser du paysage corail aux photographies. Elle contient tout ça. Elle contient la montagne dans sa complexité de la forme, elle contient les photographies dans la complexité des rapports qu'elles ont entre elles, elle contient en fait toute la complexité de la façon dont on peut lire un objet, ou lire une forme, et aussi se déplacer à l'intérieur d'une seule chose. Et ça, je trouve que c'est un peu le point... Pour nous, la méandrine, elle agit comme un point de départ, quoi, comme le point de fin.
C'est un début et la fin, c'est un cycle. Elle fait partie d'un cycle.
Exactement. Ouais.
Puisqu'on la trouve aussi sur l'enseigne, le box lumineux à l'entrée.
Voilà, qui est aussi,
et à la fin. Et en jouant de nouveau sur les lumières blanches.
Elle est en réalité aussi.
Elle contient toutes les choses qu'on vient de parler depuis le début du titre mathématique. La méandrine contient tout ça en elle-même.
Et puis il y a la liane. La liane, alors c'est vrai qu'elle doit venir d'un pays d'Afrique.
Ouais.
C'est une liane qui a une forme de spirale, qui a un diamètre assez incroyable. Je veux dire, personnellement, je n'ai jamais vu une liane pareille. Mmh. Et c'est un objet qui est très très beau.
Oui, qui a aussi cette structure. C'est aussi un objet naturel qui a une forme culturelle, quasiment. Enfin, qui devient, qui a une forme qu'on a nous codifiée comme étant une spirale ou le signe de l'infini. Où il y a, enfin, c'est presque un objet naturel qui parle un langage culturel, quoi. Et la méandrine, c'est pareil dans sa structure. Et l'autre petit coquillage qui est avec parle aussi de cette chose-là, enfin de la des structures de la nature qui deviennent des modèles de construction ou des modèles de structuration, des modèles de forme, et qui servent, qui peuvent servir aussi bien pour l'architecture que pour ce qu'on veut, quoi. Enfin, disons, la nature est la structure de la nature est toujours à la base de plein de choses de la culture.